Chapitre 6. 14 ans. L'ado de 13 ans nous tournait le dos, celui de 14 se sépare plus radicalement. Il ne cherche plus à faire plaisir. Il est en quatrième, il arrive que ses notes chutent. Des adultes ont tendance à penser que c'est parce que son intérêt se dirige excessivement vers le sexe opposé. S'il est certain que c'est une dimension importante, c'est loin d'être la seule cause de cette distance prise avec les attentes parentales. Son cerveau se prépare à l'immense saut quantique qu'est la pensée hypothético-déductive. Il deviendra bientôt capable de jongler avec des hypothèses, d'opérer des déductions. Pour l'instant, il est soumis à des tensions émotionnelles puissantes qu'il ne sait pas encore bien réguler. Il veut se dépasser, être grand, montrer et se montrer qu'il est sorti de l'enfance et pour cela prendre les attributs des grands, ce qui motive nombre de transgressions. Il se sent invulnérable et si vulnérable. Il n'a que 14 ans. Ses explorations sont encore limitées. Il fait sa crise.
Personne ne me comprend. Je me sens si seule. Je sens tellement de tension en moi, j'explose. Je ne veux pas te cogner, alors je cogne les portes.
À l'adolescence, la sécrétion de testostérone augmente de 1000% chez les garçons et 20 fois moins chez les filles. Ces quantités sont normales pour un adulte, mais dans un corps qui n'y est pas encore habitué, elle déclenche des réactions émotionnelles que le cerveau en pleine maturation peine à réguler. Les récepteurs à testostérone se multiplient sur l'amygdale. L'afflux d'hormones suractive cette petite glande. Le mammifère mâle se met à défendre son territoire. Prompt à l'attaque, il cherche à assurer sa dominance, développe son intérêt sexuel et va combattre tout intrus. L'adolescent perçoit cette tension en lui, surtout en notre présence d'ailleurs, parce qu'alors, toute cette nouvelle énergie tourne en rond. En revanche, lorsqu'il est avec ses amis, sa testostérone est la bienvenue, prise de risque, intérêt sexuel, nouvelles rencontres. Toute manifestation d'autoritarisme parental ou de contrôle, même un froncement de sourcils, sera interprétée par l'amygdale cérébrale de l'adolescent comme une menace déclenchant une des trois réactions de stress, attaque, esquive, ou inhibition. Non, ce n'est pas seulement l'adolescence. Il est sous stress. Je suis l'adulte. Pour conserver notre aptitude à penser, nous pouvons visualiser l'afflux de testostérone dans son cerveau. Cela nous permettra de réaliser que ce dont il a le moins besoin est d'une punition ou d'une remarque sur son comportement. Toute pression serait contre-productive. Notre rôle est de l'aider à calmer son amygdale et à dompter ce cerveau qui part au quart de tour. Comme le cerveau de l'adolescent a tendance à se synchroniser sur celui de sa figure d'attachement, respirer lentement nous calmera tous les deux. Sa chambre est un vrai capharnaüm. Alors que vous passez dans le couloir, vous constatez que la chambre de votre fille est très mal rangée, cela vous agace, vous ne pouvez pas vous empêcher de le lui faire remarquer. « Pour la énième fois, Fleur, tu ranges ta chambre !»«
Pourquoi tu me cries dessus? Il n'y a que ça qui t'intéresse? Que ma chambre soit rangée ?»
L'ordre ou le désordre de la chambre ressemble à ce qui se passe dans le cerveau. Un sacré désordre dans lequel l'ado est en train de mettre de l'ordre. Mais est-ce vraiment du désordre? C'est elle où est son devoir de maths ou son t-shirt rose? En général, oui. C'est son ordre actuel, même si cela paraît désordonné aux parents. C'est aussi sa manière de marquer son territoire. De plus, si les adultes rangent quand ils reçoivent des invités, aux yeux des copines, une chambre trop rangée signifierait « Je suis encore une petite fille bien sage, bien rangée ». L'ado craint ce jugement. Elle ne veut plus être rangée. Pas d'inquiétude pour le futur, ce n'est qu'une étape. D'ailleurs, n'a-t-elle pas gagné le concours de rangement de dortoir en colo? Si elle dort encore dans sa chambre d'enfant, c'est le moment de lui offrir de nouveaux meubles, de refaire son espace pour qu'il lui ressemble. Nous pouvons décider ensemble de règles. Par exemple, le linge dans la panière sera lavé. Les tasses et les assiettes reviennent dans la cuisine sous 2 jours. Et bien sûr, nous abstenir de ramasser son linge sale ou les tasses dans sa chambre pour la laisser faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Ponctuellement, nous pouvons exprimer nos désirs. « Ce soir, j'ai des invités et tu sais que j'aime bien faire visiter la maison. Es-tu d'accord que je montre aussi ta chambre ? Si oui, j'aimerais que ta chambre soit rangée à ce moment-là. Et pourquoi pas un grand ménage familial pendant une demi-heure ? On met la musique à fond et on récure. Ensemble, c'est plus gai. Et puis, pensons à augmenter notre tolérance au désordre. C'est sa chambre. Et si cela lui permet de développer son intelligence ? Attention toutefois, des serviettes hygiéniques usagées qui traînent au sol ne sont plus du désordre, mais un message non conscient. Cela dit qu'elle va mal. Nos cris d'orfraie ne peuvent améliorer les choses. C'est le moment de retisser du lien, de se reconnecter à elle pour entendre ce qui se passe pour elle et l'aider. Le désordre n'est pas forcément absence d'ordre. Diverses recherches ont montré que les personnes désordonnées étaient plus créatives, plus organisées, plus efficaces, savaient manier les priorités, avaient des buts plus clairs. Et il y a une corrélation entre désordre et QI élevé. Elle n'a aucun respect pour les autres, elle laisse traîner ses affaires dans les espaces communs. Si le comportement est vu pour ce qu'il est, une expression de la territorialité, il va passer. Entrer en conflit à ce propos risque de le renforcer. De temps à autre, je rappelle avec affection d'un seul mot « tasse » où je décris « il y a une tasse sur le tapis du salon » pour diriger son attention vers les objets et non sur sa faute. La testostérone active son amygdale et déclenche des comportements de territorialité. Elle laisse traîner ses affaires un peu partout dans la maison et la tentation est grande d'interpréter cette attitude comme un manque de respect, donc d'amour. On nous dit qu'elle cherche des limites. Oui, d'une certaine manière, elle cherche à définir son cadre, son territoire. Son comportement est inconscient. L'ado ne cherche en aucun cas à provoquer ses parents. Elle marque son espace. Elle a le visage plein d'acné. Outre le fait qu'il entraîne une perte de poids de 3 kg en moyenne, un régime alimentaire à indice glycémique bas de 3 mois permet de réduire notablement l'apparition d'acné. Non, l'acné n'est pas une fatalité de l'adolescence. Le mode d'alimentation pourrait être en cause. Confiserie, soda, céréales raffinées, frites, laitage font grimper le taux de glucose dans le sang. Si l'état de sa peau l'angoisse, ce n'est pas forcément l'angoisse qui fait sortir les boutons. Mais quand elle se trouve moche, elle peut avoir tendance à se réfugier dans les sucreries, renforçant le cercle vicieux. Pour ne pas grossir, les filles peuvent être tentées par les produits 0%, le lait écrémé. Mais sans lipides pour ralentir l'absorption, l'afflux de lactose, sucre du lait, déclenche une brutale sécrétion d'insuline. L'appauvrissement en graisse dû à la ferveur pour les régimes sans graisse est suspecté par certains d'être à l'origine de l'épidémie actuelle d'anxiété et de dépression chez les femmes. De plus, après un yaourt à 0%, on a encore faim. Nous devons aussi compter avec les caséines qui forment 76% du lait. Ces protéines stimulent la synthèse du facteur de croissance IGF-1 impliqué dans la pathogénèse de l'acné. Si l'IGF-1 est efficace pour aider le petit veau à devenir une belle vache, il l'est peut-être moins pour notre ado. Bannissons du réfrigérateur les produits allégés et autres trompe-le-ventre ainsi que le sucre blanc en général. Nos ados en mangeront suffisamment à l'extérieur. Mais notre philosophie sera, plutôt que de limiter, augmentons. Notamment les bons gras pour leur cerveau et pour leur peau. Et si vraiment elle exige des produits laitiers, toujours entiers et longuement fermentés. Pourquoi ne pas lui enseigner à faire elle-même son yaourt et son kéfir à base de bons laits frais entiers produits par une vache ayant mangé de l'herbe ? C'est ludique et elle pourrait lancer une mode en échangeant avec ses copains et copines des grains de kéfir. Retrouvez sur le site filiosa.net des idées d'aliments bons pour la peau et le cerveau. Il refuse de prendre sa douche. Votre fils est en train de lire dans le salon, c'est l'heure de la douche, vous lui demandez d'y aller. Va prendre ta douche, ta sœur la prendra après. Il ne semble pas décidé à vous écouter.
Non, j'irai après.
Une dispute éclate alors. Tu y vas maintenant !
Non ! Même si j'avais envie d'aller prendre ma douche, quand tu m'en donnes l'ordre, ça me bloque. Tu ne comprends rien, ce n'est pas la douche que je refuse, mais la façon dont tu me parles. Ça ne sert à rien que je te dise quelque chose, tu ne m'écoutes pas.
Les ordres inhibent le cerveau préfrontal. Or, l'adolescent éprouve un impérieux besoin d'activer cette zone qui se développe. Obéir peut constituer pour lui une terrible reddition. Si je fais ce que mes parents demandent, suis-je autonome ou suis-je le gentil petit garçon ou la petite fille chérie de sa maman? Quand on ne dit qu'un seul mot, la zone qui traite les informations verbales n'en a pas assez pour comprendre le sens. La mobilisation du cerveau préfrontal est nécessaire. L'ado réfléchit et peut déduire de lui-même « Ah oui, c'est l'heure de ma douche, j'y vais ». Sourire, complicité, tendresse fonctionnent mieux que les grands discours ou les ordres. Pour mobiliser son cerveau préfrontal, nous pouvons proposer des choix, poser des questions, proposer un brainstorming, dire un seul mot. Attention au ton, c'est un rappel affectueux, pas une remontrance. Et pourquoi pas un SMS ? Il promet, mais transgresse. Votre ado s'apprête à sortir avec des amis. Vous lui donnez vos dernières instructions. Je t'interdis de monter sur le scooter d'un copain. Au même moment, son copain arrive en scooter.
Oui, papa, je ne suis pas idiot. Je sais que c'est dangereux. Je te promets. Mais quand tu me dis « c'est interdit », ça me stresse. C'est comme si ça bloquait mon cerveau.
L'ado est sincère quand il promet. Il pense vraiment qu'il sera attentif et il se sent responsable. Mais presser le bouton quand les lettres ou des images apparaissent et ne toucher à rien si X s'affiche. Face à cette tâche, enfant et ado égalisent en précision. Mais la vitesse à laquelle ils réussissent à s'empêcher d'appuyer sur le bouton quand un X surgit diminue très fortement entre 8 et 20 ans. Conclusion ? Réussir à ne pas faire ce qui est interdit demande davantage d'efforts à un adolescent qu'à un enfant ou un adulte. Pour se débarrasser du stress que déclenche en lui interdit et inquiétude parentaux, il est prêt à promettre tout ce qu'on lui demande. Mais cela ne garantit en rien qu'il se montrera responsable. La responsabilité est une compétence du cerveau préfrontal, lequel est inhibé par l'obéissance. Obéir aux ordres est utile en cas d'urgence, faire sans réfléchir, mais contre-productif pour développer la responsabilité. Il existe toujours plusieurs solutions face à une situation. Réfléchissez ensemble, par exemple, à au moins 10 solutions. Lui dire que mes parents m'interdisent de rouler en deux roues, conduire moi-même le scooter, lui dire que l'ivresse de la vitesse me tente, mais ça ne vaut pas le coup de risquer un accident. Monter derrière lui sans casque, faire une blague, lui dire que je ne monte que sur les grosses cylindrées, lui proposer autre chose, monter derrière lui avec un casque, dire non, le faire parler de son scooter. Ainsi, votre enfant saura quoi faire si la situation se présente. Le placer en position de se sentir responsable plutôt que soumis sera davantage gage d'attention et de sécurité. Mobilisons son cerveau préfrontal. Si un copain te propose de monter sur son scooter, comment peux-tu réagir ? Donne-moi 10 possibilités. Il est important de l'inviter à énoncer au moins 10 réactions, parce que les premières sont en général ce que l'ado sait que le parent attend. Elles ne vont pas être efficaces parce qu'il les aura énoncées par conformisme et non parce qu'il y aura réfléchi. Il est fondamental d'inclure les options dangereuses. Sinon, le jeune n'y réfléchit pas à l'avance et ne peut donc pas se préparer à choisir de ne pas les prendre. On le laisse chercher au maximum. C'est le processus qui est important. Mobiliser son cerveau préfrontal. Si les images sont les siennes, elles reviendront en situation. Surtout, ne pas lui demander pour laquelle des solutions il va finalement opter. Cela réduirait à néant tout le travail. nous reviendrions dans une situation de soumission à une seule possibilité. La multitude d'options lui redonne de la liberté et le renvoie à sa responsabilité. Comme il le souligne souvent, il n'est pas idiot, à condition d'avoir le choix.